Bernard Bajolet, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous dites de Daesh, s'il a été vaincu sur le plan territorial, il est en train de se reconstituer.
Oui, alors même si le prestige de Daesh a été affecté par ses pertes territoriales, son influence, pour autant, n'a pas complètement disparu. Et d'autre part, le traitement politique des situations qui sont à l'origine du terrorisme, qui le favorise, ces situations politiques-là doivent être traitées. C'est vrai pour l'Irak, c'est vrai pour l'Afghanistan, c'est vrai pour le Sahel.
Au Sahel, vous pensez aux communautés de la région, c'est ça?
Oui, alors au Sahel, il y a eu les accords d'Alger, qui en eux-mêmes étaient d'excellents accords, mais dont la mise en œuvre piétine à cause de la mauvaise volonté du gouvernement de Bamako et peut-être aussi des groupes du Nord qui ont leur propre agenda. Et je ne crois pas, pour ma part, à une réponse purement sécuritaire. Cette réponse sécuritaire, elle est nécessaire. Mais le problème de fond, c'est la désespérance des populations du Nord, qu'elles soient Touareg, Arabes, Berabiche ou un peu plus au sud les Peuls aussi qui se sentent marginalisés. Donc si les gouvernements en question comptent résoudre ces problèmes par la force, ils n'y arriveront pas.
Vous semblez dire que dans la mauvaise application des accords d'Alger, le gouvernement de Bamako a plus de responsabilités que les groupes armés du Nord. Pourquoi ?
Moi j'ai toujours eu le sentiment, et ça c'est pas nouveau, c'était vrai du temps déjà du président précédent ATT, une certaine réticence à vouloir agir en direction de ces populations du Nord.
Alors justement au Sahel, depuis un an et demi, les groupes terroristes se sont mis sous la bannière du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM, et sous la bannière d'Iyad Agrali. C'est le signe d'un renforcement ou d'un affaiblissement ?
Écoutez, Iyad Agrali est une personnalité qui a un certain prestige dans cette région, dont on peut tout à fait regretter qu'il soit devenu un chef terroriste, et qui, je le pense, vous me permettrez de ne pas être trop spécifique, bénéficie de toute évidence de certaines protections.
Et certains soupçonnent Bamako de pratiquer un double jeu avec Iyad Agrali, c'est-à-dire de le combattre le jour et de parler avec lui la nuit.
Alors, je n'irai pas jusqu'à dire ça et je n'ai pas d'éléments qui me permettraient d'aller dans ce sens. Mais, encore une fois, Iyad Agrali bénéficie de certaines protections, c'est vrai.
On n'entend plus parler de Mokhtar Belmokhtar depuis 2 ans. Qu'est-il devenu ?
Écoutez, je pense qu'on n'entend plus parler, sans doute pour de bonnes raisons. Mais voilà, j'en dirai pas davantage.
C'est-à-dire qu'il n'est plus de ce monde ?
Dieu seul le sait.
Quand vous dites qu'Iyad Agrali est sous protection, vous pensez notamment à l'Algérie ?
Écoutez, je ne vais pas être plus spécifique, voilà, mais je pense qu'il bénéficie en effet de l'indulgence de certaines parties, mais je ne les nommerai pas.
Y a-t-il un délitement de l'État algérien qui profite aux trafiquants et aux terroristes ?
Écoutez, je n'emploierai pas le terme de délitement, et les trafics se passent plutôt aux frontières sud de l'Algérie.
En tout cas, il y a un problème dans le sud algérien.
Il y a un problème, en tout cas, dans les territoires au sud de ce pays.
Le 20 septembre, dans le Figaro, vous avez dit « Le président Bouteflika, avec tout le respect que j'éprouve pour lui, est maintenu en vie artificiellement et rien ne changera dans cette période de transition. »
Bon, écoutez, je crois que j'étais assez clair là-dessus, je ne veux pas y revenir.
Et vous avez écrit dans votre livre que quand vous étiez ambassadeur, entre 2006 et 2008, vous avez été pris de vertige par les sommets que la corruption avait atteints, touchant jusqu'à la famille du président Bouteflika.
Oui, d'ailleurs, c'est un secret pour personne, puisque ça l'était, jusqu'au moment où Wikileaks a publié un télégramme de compte-rendu de mon collègue américain, d'une conversation que nous avions eue, où j'évoquais ces questions-là, et je dois dire qu'en lisant, en découvrant ce télégramme, 3 ans après, j'ai trouvé que l'ambassadeur avait reproduit très fidèlement mes propos.
En vue de l'après Bouteflika, est-ce que cette succession à venir, elle est ouverte ou elle se fera dans le même cercle ?
Écoutez, il faut demander aux Algériens, je ne vais pas me prononcer davantage.
Mais au vu des limogeages récents et notamment de Toufik Mediem, l'ancien chef des services de renseignement algériens, comment vous voyez la suite ?
Écoutez, ces mouvements que l'on constate ici et là, en effet, montrent que la suite se prépare. Mais quelle est cette suite ? Je n'en sais vraiment rien.
De façon plutôt ouverte ou de façon plutôt fermée ?
Pour ma part, je ne vois pas, actuellement, je ne vois pas beaucoup de facteurs d'ouverture.
D'où le limogeage peut-être de Toufik Mediem.
Encore une fois, je ne vais pas commenter spécifiquement cet épisode.
La visite d'Emmanuel Macron chez la veuve de Maurice Audin, la reconnaissance que l'armée française a torturé jusqu'à la mort pendant la guerre d'Algérie. Est-ce que ça vous a choqué, vous, l'ancien ambassadeur de France ?
Pas du tout. Je crois qu'on aurait dû le faire bien plus tôt même. Je pense que Emmanuel Macron a eu parfaitement raison de le faire. C'est une justice qui devait être rendu. Et je précise qu'il s'agit d'abord d'un problème franco-français.
Ce travail de mémoire, est-ce qu'il se fait des deux côtés, algérien comme français ?
Écoutez, il y a eu des avancées, mais c'est sûr que je trouverais intéressant que les archives du FLN soient aussi ouvertes.
Est-ce que vous estimez qu'en Afrique, la Chine exerce une politique qui est digne de son statut de grande puissance ?
Moi, je trouve la Chine s'apprête à acquérir le statut de première puissance mondiale, mais je pense que ceci ne peut pas se faire sans un certain nombre de principes. principes. Par exemple, quand on réunit les chefs d'État africains pour leur dire, bon, nous allons vous effacer la dette, nous allons vous soutenir, mais nous n'exigerons absolument rien en retour. Alors, je trouve que ça me paraît pas en ligne avec les principes des Nations Unies en matière de bonne gouvernance. Donc, on peut pas comme ça dire, voilà, faites tout ce que vous voulez. Quand on a, je pense, on s'apprête à prendre une telle responsabilité, on peut pas dire, faites ce que vous voulez, etc. Moi-même, ce qui m'a aussi beaucoup choqué dans mes pérégrinations en Afrique, notamment récemment, c'était le peu de qualité de la gouvernance. Par exemple, je ne citerai pas de nom, mais j'ai eu le mauvais exemple d'un chef d'État qui, par l'intermédiaire d'un homme de paille, avait claqué 30 millions d'euros en quelques mois dans un casino pour recycler de l'argent et qui ensuite venait réclamer une aide budgétaire.
Donc on ne peut pas. Un chef d'État africain.
Un chef d'État africain. On ne peut pas totalement ignorer les problèmes de gouvernance. C'est un mauvais service qu'on rend à l'Afrique et qu'on rend aux peuples africains.
Bernard Bajolet, page 433, vous écrivez « Ces derniers temps, je n'ai cessé de penser aux otages assassinés. Je n'oublie pas notamment les deux journalistes de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, assassinés près de Kidal en novembre 2013. » Alors, 5 ans après, presque jour pour jour, vous voilà dans ce studio de RFI où Claude et Ghislaine ont été. Ghislaine de ce côté de la vitre, Claude de l'autre côté. Comment vous sentez cela? Est-ce que vous gardez un souvenir précis de ce drame?
Alors, bien sûr, c'est un drame qui m'a marqué. Je pense à eux en ce jour, cet endroit, encore plus que jamais. Bon, je rentrerai pas dans les détails parce que c'est un sujet qui continue à faire l'objet d'une instruction, d'une procédure judiciaire.
Avec le juge Jean-Marc Herbeau.
Voilà, mais je crois pouvoir dire ici que les coupables, ils sont identifiés. Donc, ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'en effet, la lumière soit faite, que les familles, leurs confrères, leurs collègues sachent exactement ce qui s'est passé et que les coupables, dans la mesure où ils sont encore en vie, que les coupables répondent de leurs actes devant la justice.
Bernard Bajolet, merci.